J'ai aperçu dans le ciel une boule incandescente.
Voyez-vous, je prends une baguette de coudrier, de noisetier. Là, je commence à sentir de l'eau, voyez.
La table va bouger et elle va taper des coups.
Je donne simplement du magnétisme, je recharge les personnes. Et la personne se débarrasse elle-même de ses malaises.
Depuis 1945, plus d'une centaine de navires et d'une vingtaine d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes.
Je dis un, je dis deux, je dis trois, et vous dormez. Dormez.
Grâce à leurs mains, ils soulagent les patients. Pourtant, leur pratique reste un mystère pour la science. En France, des milliers d'hommes et de femmes disent exercer un don qui soulage les brûlures ou les douleurs. On les appelle magnétiseurs, guérisseurs, rebouteux ou coupeurs de feu. Et ils ne vivent pas forcément dans une cabane au fond du Berry. On peut les trouver dans les grandes villes. Ils sont par exemple très nombreux en région parisienne. On les consulte souvent en cachette. Pourtant, ces magnétiseurs travaillent parfois avec les médecins. Dans cette émission, une sociologue, un chercheur spécialiste de la pensée critique et un médecin membre de l'Académie de médecine dont les propos vous étonneront.
Les aventuriers sur France Inter.
Avec nous pour cette émission, Fanny Charras, docteur en sociologie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur d'une thèse sur le magnétisme et le chamanisme. Avec nous également Bruno Falissard, médecin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à la faculté de médecine Paris-Sud, membre de l'Académie de médecine et vous préparez un rapport sur la place de l'irrationnel en médecine. Et puis en duplex de Grenoble, Richard Monvoisin, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Grenoble-Alpes, vous enseignez la pensée critique et vous vous intéressez depuis longtemps au sujet des barreurs de feu. Voici pour commencer le témoignage d'une infirmière qui travaille aux urgences dans le Cantal.
Ça doit bien faire une dizaine d'années que j'ai le don. En fait, c'est dans ma famille depuis très longtemps et c'est une de mes tantes qui me l'a donné en fait. Ça faisait quelque temps en fait que j'essayais un petit peu moi d'obtenir parce que ça m'intéressait bien, que j'étais voilà intéressée. Après voilà, on ne demande pas vraiment et un jour elle m'a dit si tu veux je te le transmets. Donc elle m'a expliqué ce qu'il fallait faire et voilà. Après j'ai essayé voilà toute seule et ça se passe beaucoup au feeling quoi en fait. Hein. C'est difficile à expliquer, hein. Même moi qui le fais, je ne sais pas vraiment comment ça marche. J'ai voilà quelques gestes à faire, quelques paroles à dire dans mon esprit et voilà, il suffit d'être bien concentré et c'est vraiment quelque chose qui se sent quoi. C'est alors complètement en dehors de mon métier très cartésien, mais voilà, ça marche donc.
Ça marche, elle coupe le feu. Les coupeurs de feu ou les barreurs de feu pensent donc avoir un don. Et si quelqu'un connaît le sujet, c'est bien vous, Richard Monvoisin, vous avez compilé tout ce qui existe sur les barreurs de feu et vous en avez rencontré beaucoup. Qui sont-ils ?
Qui sont-ils ? Je ne sais pas si on peut tracer un portrait type. Néanmoins, je remarque beaucoup de ceux que j'ai rencontrés, parmi la centaine que j'ai rencontrés, sont des gens qui sont souvent en reconversion et qui sont très très contents d'avoir renoué avec le monde thérapeutique, on va dire, ce qui leur donne souvent une sorte de capital symbolique qui est assez agréable. Et sont des gens qui sont sincèrement convaincus de leur capacité ou de leur don, sont des gens foncièrement gentils pour l'essentiel de ce que j'ai rencontré et qui font ça pour le bien des autres.
Et ils ont un autre métier en général, ils sont boulangers, ils sont avocats, ils sont instituteurs.
C'est ça. Et on leur, alors il y a plusieurs écoles. Certains ont un don, certains revendiquent un don, certains disent que c'est une pratique qu'on peut transmettre par proximité, c'est-à-dire on se met à côté de quelqu'un qui pratique et on apprend exactement la même prière. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est souvent une prière qui est associée à cela. C'est souvent catholique ou protestant. Je connais pas beaucoup de cas qui soient pas chrétiens.
Pas de musulmans.
J'en connais pas. En tout cas, j'en ai pas rencontré. Et c'est vrai que si on regarde un peu la répartition, peut-être mes collègues auront des nuances à apporter, mais Bretagne, Jura, Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Suisse, beaucoup, avec le terme, on utilise souvent le terme de pratique du secret, ou le secret, selon l'accent qu'on veut prendre. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous raconter une rencontre ?
Ben, je vous raconte une rencontre avec la dernière dame que j'ai rencontrée qui pratique. C'est une personne qui m'explique comment elle s'y prend. Quand quelqu'un la contacte, elle reçoit un coup de téléphone, généralement. Elle s'arrête de faire ce qu'elle est en train de faire. et elle consacre une prière bien particulière qu'elle ne révèle pas. Et donc elle marmonne sa prière en même temps qu'elle pense aux membres lésés. C'est souvent une brûlure de type mécanique, c'est-à-dire une brûlure café, thé chaud, gazinière, etc. Et ensuite, la personne ressent un bien-être dans l'heure qui vient. Et à long terme, généralement, il n'y a pas de trace. Ce qui fait que 100% des gens qui la contactent ensuite sont satisfaits du soin. Donc elle est très contente, elle se trouve très contente de rendre service.
Et ça peut même se passer par téléphone.
C'est essentiellement par téléphone pour la plupart des gens que je rencontre. Parce que quand on est en... Il arrive parfois que les gens se déplacent, mais dans ce cas-là, on rentre presque dans une catégorie à part, qui est la catégorie des magnétiseurs, qui viennent par imposition des mains à plus ou moins grande distance du membre lésé, appliquer les mains, appliquer un simili fluide. Donc c'est plus tout à fait la même pratique. Les barreurs ou les coupeurs ou les penseurs de secrets, les leveurs de feu sont des gens qui pratiquent généralement à distance.
Avec des formules qui sont plutôt supposées secrètes.
Des formules qui sont supposées secrètes et qui sont très souvent religieuses, hein, très souvent adossées à un saint, que ce soit Saint Laurent, Saint Angèle ou plein d'autres. J'ai plein d'exemples comme ça. J'ai un livre entier de prières. Vous voulez que je vous en lise une ?
Ah ben je veux bien.
Mouillé d'un peu de salive l'index de la main gauche, puis avec le bout de ce doigt, tracer trois cercles autour de la brûlure en disant « Brûlure, cesse ton feu et deviens aussi douce que le lait de la Sainte Vierge quand elle allaitait notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Et voilà, et en traçant ces derniers mots, enfin en disant ces derniers mots, tracer avec le même index trois lignes croisées et recroisées sur la brûlure.
Et si vous voulez entendre d'autres formules, voici un extrait d'une émission qui s'appelait « Les marmitons du diable », diffusée en avril 1950.
Il suffit d'apprendre la formule du secret. Or, cette formule, si curieuse que cela puisse sembler, n'est nullement un mystère. Et le secret est devenu au cours des siècles un vrai secret de polichinelle, puisque tout le monde peut le transmettre ou l'acquérir. La seule restriction à observer est la suivante. Respecter la règle essentielle, toute formule ne pourrait être transmise que d'aïeul à descendant, ou d'aîné à cadet.
Première formule pour panser une brûlure.
Feu du ciel, perds ta chaleur. Comme Judas perdit sa couleur quand il vendut Jésus au jardin des Olives.
Une autre formule, celle-là qui convient pour tout, le pansement en quelque sorte omnibus.
Maudit mot. Si t'es dans la moelle, saute dans les yeux. Si t'es dans les yeux, saute dans la viande. Si t'es dans la viande, saute dans la piau. Si t'es dans la piau, saute dans le poêle. Si t'es dans le poêle, saute à terre. Et on l'écrase du bout de son sabot sur le sol. En y traçant une croix et en prononçant cinq pater et cinq ave.
Et on prononce 5 pater et 5 ave. Ça vous étonne, Richard Monvoisin ?
La pratique qui consiste à aller jeter le mal que l'on a prélevé sur le patient ou la personne malade dans un autre objet, c'est quelque chose d'assez fréquent, hein, qu'on retrouve dans beaucoup de littérature européenne. Ça se perd un petit peu, j'ai envie de dire. C'est rare qu'on aille jeter le mal qu'on a pris sur quelqu'un dans un chat errant ou dans une pierre. Mais ça arrive encore.
Pauvre chat.
Qui a rien demandé.
Bruno Falissard, vous êtes médecin, membre de l'Académie de médecine et vous vous intéressez à la place de l'irrationnel. Est-ce que ce que vous venez d'entendre vous étonne ?
Non, bien sûr que non. Parce que même si notre médecine est extrêmement rationnelle, en fait, beaucoup de nos patients, au moment où la maladie arrive, ben, s'accrochent à de la spiritualité, à des choses qui apparaissent irrationnelles, et c'est complètement humain.
Est-ce que c'est pour ça qu'il y a des listes de coupeurs de feu, de barreurs de feu, dans certains services à l'hôpital ?
Alors, c'est une vraie question. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a plus de perméabilité avec les soins non conventionnels qu'il y en avait avant. Que ça soit les barreurs de feu, que ça soit des acupuncteurs, que ça soit des hypnothérapeutes.
Et vous les mettez sur le même plan ?
Ben nous, on les appelle soins non conventionnels, c'est-à-dire que ce sont des soins que l'on n'apprend pas dans les facultés de médecine. Et donc du coup, ça a comme inconvénient qu'on ne sait pas comment ces personnes sont formées. Et donc parfois, ce sont de vrais charlatans qui veulent pas forcément vous faire du bien, mais plutôt s'intéresser à votre portefeuille. Et puis d'autres, comme on a entendu, qui sont des gens en fait qui veulent faire du bien et qui parfois en font.
Mais est-ce qu'on peut faire du bien par téléphone ?
Alors, ben, il y a des psychothérapeutes qui travaillent par téléphone et ils font du bien. Par la parole, on peut faire du bien. Alors, vous me direz, oui, mais ça, c'est les psys, c'est-à-dire on fait du bien au psychisme, là, c'est la brûlure. Ben oui, mais je veux dire, prenez le piment, par exemple. Le piment, ça brûle, hein. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Mais quand vous mangez du piment, votre bouche, elle est toujours à 37 degrés. Mais vous avez l'impression que c'est très chaud. Ben, peut-être que les barreurs de feu, c'est un peu pareil.
Comment est-ce que vous expliquez que ça fonctionne, Richard Monvoisin ?
On a une hypothèse dessus qui est assez forte. Disons qu'il y a déjà un premier problème, c'est que on a tendance à penser que les brûlures sont graves, d'autant plus graves qu'elles sont douloureuses, ce qui n'est pas le cas. En général, c'est les brûlures de premier degré et de deuxième degré léger qui sont particulièrement douloureuses et qui sont souvent bénignes. Ce qui fait que c'est ce public-là qui est surreprésenté dans l'appel aux barreaux de feu, puisque ceux qui sont brûlés de manière plus grave sont généralement évacués par le SAMU ou vers les hôpitaux alentours. Et donc, ce sont les gens qui ont des brûlures de premier et deuxième degré léger qui appellent. Ensuite se passe un autre truc, on se rend compte qu'une brûlure de premier degré, deuxième degré, léger, la douleur s'éteint au bout de trois quarts d'heure, mais cela, quoi que vous fassiez. Avec ça, on recouvre à peu près le phénomène, si ce n'est pour les traces à long terme. Les gens disent, oui, mais tu te rends compte, j'ai plus de traces, donc ça, bon, ça prouve bien que ça fonctionne. Mais en fait, non, les brûlures de premier degré, deuxième degré, léger ne laissent pas de traces. Et quand les barreaux de feu ont travaillé sur des brûlures de niveau plus grave, les gens sont quand même satisfaits en se disant, bah, de toute façon, si j'avais pas eu ce soin de barreur de feu, la brûlure aurait laissé une plus grosse trace. Donc, pour ça, si vraiment l'effet des barreurs de feu est réel sur les traces qui sont restées, il faudrait pouvoir comparer des gens brûlés qui reçoivent le soin des barreurs de feu et des gens brûlés qui ne reçoivent pas le soin des barreurs de feu. Et ça, j'ai toujours pas réussi à monter un protocole expérimental sur le sujet parce que ça pose un nombre de problèmes éthiques immense.
Et je vous comprends. Richard Monvoisin, Bruno Falissard, dans un instant, coup de projecteur sur les magnétiseurs avec Fanny Charras, qui est sociologue. Elle en a rencontré plus de 60 en Ile-de-France.
Someday I won't be so afraid. Someday I'll be in my own best friend. Someday I'll grow into my thoughts. Someday I'll give up, giving up. Ooh, oh. Someday, how it never comes. Everybody wishes they'd done something different. It's all over. So I sat down in my boat and I'm writing you this song. And I hope you feel better someday. Cause someday's the day now. Someday's the day. Someday's the day, and it never comes at all. Do what you can, go on and run. Be everything you ever wanted to be, calm. Cause someday's the day now. Someday's the day, someday's the day, and it never comes at all.
Someday, c'était Sarah McCoy.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
Nous allons donc nous intéresser dans cette partie aux magnétiseurs dont les pratiques se seraient modernisées au cours de ces dernières années.
Ma fille avait une verrue plantaire. À présent, elle est parfaitement guérie.
Madame ?
Mon mari avait des verrues au doigt et maintenant il est guéri.
Complètement ?
Complètement.
Et vous, monsieur ?
J'avais des dartres dans la figure. Et au cou, la dernière fois dans l'oreille, et maintenant je suis guéri.
Et ça n'est jamais revenu.
Ça n'est jamais revenu.
Monsieur Jacob, tous vos concitoyens, tous vos amis qui sont là autour de vous, ont été guéris par vous. Alors comment faites-vous?
J'impose les mains, je fais une prière secrète, et...
C'est une prière, une certaine prière que vous dites?
Oui.
Quelle prière?
Une prière secrète, je ne peux pas le dire à quelqu'un d'autre. Et je fais trois signes de croix. Et puis je donne une pénitence de trois ou six jours au malade.
Et le malade guérit.
Oui.
Extrait d'une émission diffusée sur Antenne 2 en novembre 1975. Fanny Charras, vous êtes sociologue, vous avez fait une thèse sur le sujet des magnétiseurs, vous en avez rencontré une soixantaine. Qui sont les magnétiseurs ?
Alors, j'écoutais tout à l'heure ce que disait Richard Monvoisin, et en fait, les magnétiseurs, certains d'entre eux vont dire qu'ils sont également coupeurs de feu, mais que le magnétisme est plus vaste que le fait de simplement couper le feu. Souvent, une des trajectoires de vie va consister d'abord à couper le feu, et petit à petit, à étendre cette pratique à parfois à des verrues, à de l'eczéma, des problèmes de peau, de façon générale. Et parfois, un peu plus loin encore, ça va dépendre, en fait, de chaque magnétiseur. Et donc, ils vont dire, on est magnétiseur, mais aussi coupeur de feu. Disons que le magnétisme recouvre le barrage de feu, en partie.
Mais ils disent qu'ils ont un fluide, qu'est-ce qu'ils ont?
Alors, et l'autre différence aussi avec les barreurs de feu tels que les a présentés Richard Monvoisin tout à l'heure, c'est que les magnétiseurs que j'ai rencontrés, pour la plupart, c'est-à-dire 90% d'entre eux, ne sont pas devenus magnétiseurs ou magnétiseuses de père en fils ou de mère en fille, ne se revendiquent pas d'un don. Ils vont dire justement, c'est pas vraiment un don, peut-être que je l'avais, mais je l'ai développé, je l'ai travaillé, ce qui veut dire que c'est pas juste un don inné, naturel, on va dire. Et d'autre part, ils ont un parcours de vie, entre guillemets, tout à fait normal. Certains étaient avocats, j'ai rencontré aussi un commandant de police qui est devenu magnétiseur, une avocate qui est devenue magnétiseuse à temps plein. C'est différentes personnes qui tout d'un coup vont avoir une expérience personnelle, particulière, sans avoir un aïeul qui est magnétiseur, qui va, entre guillemets, cette expérience, c'est une expérience énigmatique, va consister par exemple en le fait de poser la main sur quelqu'un qui a mal et la personne va se dire guérie. D'autres ont des expériences énigmatiques d'un autre type qui va être voir un esprit. Au début, ils vont avoir du mal à dire que c'est un esprit, ils vont plutôt dire que c'est une hallucination. Donc en tant que sociologue, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on en venait à dire que c'était un esprit et non une hallucination, en sachant qu'en France, c'est pas facile de dire ce genre de choses. Et pareil, comment on en vient à dire c'est pas juste du placebo, c'est moi qui ai vraiment guéri la personne. Voilà, donc c'est des parcours de vie un peu différents. Et d'ailleurs, l'autre point qui différencie par rapport aux coupeurs de feu de campagne, on va dire, définis par Richard Monvoisin, c'est qu'ils ont rarement des secrets.
Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait le tour des magnétiseurs d'Île-de-France. Vous n'êtes pas parti à la campagne.
J'ai commencé, en fait, mon début d'enquête, je l'ai commencé à la campagne par contact, etc. Et au bout d'un moment, entendant parler de magnétiseurs à Paris, je me suis dit, mais en fait, c'est plus original de travailler à Paris en tant que sociologue, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, d'ailleurs plutôt, qu'on va dire, entre guillemets, anthropologiques que sociologiques, qui portent sur le magnétisme de campagne, sur le barrage de feu, sur la transmission du don, sur le secret. Et moi, ce qui m'a intéressé, en étant à Paris, c'était d'aller voir les magnétiseurs qui ouvraient dans des quartiers chics de Paris, dans l'ouest parisien, dans le 92. Et c'est ce phénomène qui m'a intéressé, parce que j'avais cette idée que le magnétisme était plutôt, et le barrage de feu, une pratique populaire, ancrée dans les campagnes, reléguée
un peu vieillotte,
voilà, traditionnelle, ancestrale, en voie de disparition. Et l'ouverture de ces cabinets en plein centre parisien m'ont convaincue du contraire. Et donc, c'est là-dessus que j'ai voulu enquêter.
Racontez-nous une rencontre qui vous a marqué.
Alors, plusieurs rencontres m'ont marqué, mais par rapport à la pratique même du magnétisme, disons qu'il y a une expérience personnelle qui m'a marqué plus que les autres, ou qui a commencé à m'étonner, ou qui m'a percuté, je sais pas comment dire. J'étais près de la Défense, chez un magnétiseur, et je voulais observer sa pratique. Alors, c'était un ancien restaurateur qui, vers 45 ans, a commencé à magnétiser alors qu'il n'avait pas reçu le don ni le secret comme ça pouvait se faire autrefois. Et petit à petit, face au succès de sa pratique, il a commencé à pratiquer sur tout le monde, enfin, et à être consulté tellement qu'il a fermé son restaurant pour ouvrir un cabinet de magnétisme. Et donc, j'étais là et je me suis demandé, est-ce que je pourrais observer votre pratique, en sachant que c'est un peu secret. Et c'est sa fille, qui a le même âge que moi, qui dit, mais papa, si tu la laisses pas observer ta pratique, moi, je ferai comment si un jour je vais faire une thèse, imagine la même chose m'arrive. Et là, il a dit, bon, alors, j'appelle la prochaine patiente. Il l'appelle et je l'entends, elle, lui dire, c'est la première fois que je vais voir un magnétiseur, je suis un peu mal à l'aise, mais j'accepte. Et donc, je la rencontre 3 jours plus tard. C'est une femme très chic, d'une cinquantaine d'années, qui entre dans le cabinet, qui à peine m'adresse un signe de tête, qui se place donc de face au magnétiseur. Il met les mains dans son dos sans la toucher. Et à mon grand étonnement, elle est prise de convulsions. Et d'ailleurs, quand il lui demande où est-ce qu'il a les mains, à quel niveau du dos il a les mains, elle devine qu'il les a en haut ou en bas, alors qu'il n'y avait pas de miroir ni rien. Alors, je suis assez étonnée, moi je prends des notes, hein, comme toute bonne ethnographe, et puis elle s'allonge sur la table de soins, et là, autre phénomène qui est étrange, c'est-à-dire, il est aussi étrange pour le magnétiseur, parce que je vois dans ses yeux qu'il me regarde, étonnée. En fait, je vois dans ses yeux, ça n'arrive jamais, ça. C'est-à-dire qu'il passe les mains au-dessus d'elle sans la toucher, et petit à petit, elle se dresse sur la table de soins. Déjà ses bras, elle, et puis petit à petit, ses épaules se dressent sur la table de soins. Et elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, laissez faire, on voit ce que l'énergie est en train de nous dire. Et d'un seul coup, elle va se redresser, et je note dans mon carnet de terrain, on dirait un accouchement. Et c'est ensuite, lors du débriefing avec le magnétiseur, il lui dit « Vous avez pas une fille ?» Elle dit « Si, si, vous avez pas eu un problème au moment de l'accouchement ?» Et elle lui dit « Bah, en fait, j'ai eu un baby blues tellement fort après l'accouchement que mon mari, qui est comme moi chercheur en pharmacie, m'a mis sous antidépresseur et j'ai pas pu allaiter. » Et là, il lui dit, vous avez fini votre accouchement 30 ans plus tard. Enfin, 25 ans plus tard.
Donc, le jour de cette fameuse séance.
Et là, en fait, il a dit, vous devez finir cet accouchement, le revivre, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas, voilà. Et ce qui m'a frappé, c'est que déjà, cette réaction, et puis, en sortant, la patiente m'a regardé dans les yeux et m'a dit, écoutez, moi, je suis pharmacienne, chercheuse en pharmacie, je n'y crois pas du tout à l'énergie, je suis venue ici en cachant à toute la famille, sauf ma fille, c'est la seule à le savoir. Il faut que des gens fassent une thèse sur ce que c'est que l'énergie. Donc, votre travail est intéressant. Et voilà. Je commençais tout juste. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va enquêter là-dessus.
Bruno Falissard, ce genre de séance est courant?
Ah ben, aujourd'hui, en tout cas, c'est caché, mais aujourd'hui, c'est pas à la mode de dire qu'on va voir un magnétiseur, et puis c'est pas du tout à la mode de dire qu'on peut être sous l'emprise de forces énergétiques, etc. Mais Charcot, au début du XXe siècle, faisait ça à la Pitié-Salpêtrière. Il y avait des crises convulsives, pareil, qui provenaient juste du fait qu'il parlait et il bougeait. Donc c'est très ancien en médecine.
Qu'est-ce qu'il va y avoir dans votre rapport sur la place de l'irrationnel? Parce qu'il y a quelques années, on disait que l'hypnose, c'était du charlatanisme, les psychothérapies, ça n'a pas été pris au sérieux tout de suite. Et puis aujourd'hui, ces pratiques, on leur place à l'hôpital.
Alors, il y a plein de choses qu'on mélange. Il y a d'abord des soins qui ont un mécanisme que l'on comprend. Par exemple, il y a une appendicite, on ouvre le ventre, on enlève l'appendice qui est inflammé, on recoue, a priori c'est guéri, on comprend pourquoi. Et donc ça, les médecins, ils aiment bien ça, c'est une médecine rationnelle. Mais ça, c'est en fait pas la majorité de ce qu'on fait. Souvent, on fait des choses qui marchent, on ne sait pas vraiment pourquoi ça marche. Le paracétamol, par exemple, on ne sait pas pourquoi ça marche. Alors que tout le monde en a pris.
C'est vrai?
Ben oui, bien sûr. Alors là, comment on fait? On fait des essais thérapeutiques. C'est ce que disait Richard, mon voisin, tout à l'heure. Donc on va comparer des groupes, hein, et puis on va voir quel est le groupe qui réussit le mieux. Et ça, vous voyez, il n'y a pas besoin de comprendre. On va juste comparer. Et puis alors après, il y a des soins où le fondement est quand même très très bizarre. Hein. Vous voyez, on y est là, l'acupuncture, l'homéopathie. Et là, ça dérange la médecine traditionnelle parce que non seulement on ne sait pas si ça marche vraiment avec des études, mais en plus, le mécanisme qu'il y a derrière est quand même très magique.
Semble magique.
Oui, alors ça dépend ce qu'on appelle la magie. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué par la science d'aujourd'hui. Alors là, après, on est humble, on peut se dire que peut-être un jour ça sera expliqué. Qui sait? Et puis après, on peut se dire que le mécanisme, il est différent. On oublie aujourd'hui qu'en parlant, en bougeant, en touchant quelqu'un, ça peut avoir un impact majeur. Tous les soirs, les couples se touchent, se massent, ça fait beaucoup de bien. On est relâché. Vous voyez, et on oublie que finalement, le soignant peut rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, vous savez, aussi beaucoup de gens se plaignent que les médecins ne parlent plus à leurs patients, hein, parce qu'ils n'ont plus le temps. Et là, les soins non conventionnels, eh ben, ils parlent. Et peut-être que c'est ça aussi qui fait du bien.
Fanny Charin, c'est ce que vous pensez aussi, c'est que la médecine est devenue trop technique et que des patients ont besoin de parler, d'être touchés. C'est pour ça que ça marche?
Je pense qu'il y a en effet un mouvement historique qui fait que petit à petit, il y a une technicisation de la médecine et que des pratiques qui autrefois n'avaient pas leur place dans l'organisation du travail, comme le magnétisme, commencent à trouver leur place comme complémentaires de médecine, c'est-à-dire qu'elles vont apporter ce que la médecine ne peut plus apporter. Et notamment une écoute, notamment, comme le disait Bruno Falissard, une présence en fait active pour prendre soin du patient et donc contribuer à son bien-être.
Et voici maintenant le témoignage d'un magnétiseur diffusé sur Antenne 2, en novembre 1975.
Vous avez donc le pouvoir de guérir certaines maladies. C'est un don. D'où vient ce don, d'après vous?
De mon père.
Il vous l'a transmis de quelle façon?
Eh bien, il me l'a donné à certain âge.
De qui le tenait-il, lui?
D'une personne qui avait vécu avant lui.
Et cette personne, à son tour, la tenait de...
Moi, je crois que ça vient de Jésus-Christ.
De quelle façon?
C'est marqué dans l'Évangile. Jésus-Christ a dit ça à ses apôtres. Allez à imposer les mains et les malades seront guéris.
Écoutait Leïla Makkala.
Les aventuriers sur France Inter.
Magnétiseurs, coupeurs de feu, comment ces pratiques sont-elles examinées par la science, par le corps médical ou les sociologues? Les patients, en tout cas, semblent satisfaits.
Grâce à Jean, quand je suis en pleine crise, il n'a même pas besoin d'un coup de fil de ma part. Il doit le ressentir, il doit avoir un certain fluide pour monter directement à la maison quand ça fait très chaud, pour venir me conjurer.
Il faut bien sûr, et heureusement qu'il y a la chirurgie, qu'il y a la chimio, qu'il y a tout ça. Nous, on n'est pas là pour enlever un cancer. On est là pour aider à la personne qui veut s'en sortir. Si on peut l'accompagner, c'est un chemin qu'on fait ensemble.
Ça l'épuise beaucoup et il a souvent besoin de boire beaucoup d'eau après son intervention.
Et quand il n'y a pas d'eau, je bois beaucoup de vin.
En tout cas, il y a de l'ambiance. Extrait de l'émission Les Nouveaux Guérisseurs, diffusée le 23 mars 2011. Richard Monvoisin, c'est difficile de mener des expériences avec les coupeurs de feu, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure.
Avec les magnétiseurs, c'est un petit peu plus simple, encore faut-il qu'ils soient d'accord pour le faire. Avec les barreurs de feu, c'est compliqué parce que vous devez avoir affaire à des gens qui sont brûlés et vous pouvez évidemment pas les brûler volontairement, même s'ils sont d'accord. Et donc on est obligé de prendre des gens qui sont déjà en souffrance, qui vont recevoir un soin à l'hôpital, dont on ne peut difficilement pas attendre d'eux qu'ils participent à un protocole de test avec ou sans barreur de feu, de peur que le fait de se sentir privé d'un soin complémentaire comme celui des barreurs de feu puisse les inquiéter. Donc c'est vraiment une équation compliquée. On m'a même proposé de brûler des animaux pour résoudre ce problème, ce qui me fait pas du tout envie. Je vous rassure, je le ferai
vous
pas.
Vous ne l'avez pas fait, hein, j'espère.
Pas du tout. Mais je désespère pas de pouvoir comparer ça, parce que quand je fais de la bibliographie sur le sujet, je me rends compte que nulle part il n'y a de preuve de l'efficacité de ce soin. Or, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est soit ce soin est purement un maximalisateur d'effet placebo, si j'ose dire, un maximalisateur d'effet contextuel, comme on dit dans le jargon. Et dans ce cas-là, ça mérite d'être pris en charge à l'hôpital, quitte à l'associer ensuite à une explication pourquoi, en fait, c'est du symbolisme et que peut-être qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a pas d'efficacité propre aux soins, mais n'empêche que, bon, pourquoi pas, c'est intéressant, quoi. Soit il n'y a pas d'efficacité, ni contextuelle, et auquel cas, quelle place, dans ce cas-là, lui donner à l'hôpital? Parce que si on accepte un soin sans preuve à l'hôpital, bah, qu'est-ce qu'on rétorque à toutes les autres formes de soins sans preuve qui pourraient prétendre à la même chose?
On va demander à Bruno Falissard ce qu'il en pense.
Encore une fois, ben, où il se passe vraiment quelque chose que la science ignore, alors d'accord, mais c'est extrêmement peu probable. Ou c'est plutôt, alors on dit soin contextuel, c'est vrai. Encore une fois, il ne faut pas euphémiser ça, c'est-à-dire que c'est la voix, c'est fort. La voix d'un soignant, ben, écoutez, quand un médecin vous parle avec gravité, avec chaleur, eh bien vous êtes plus susceptible de prendre le médicament qu'il va vous donner que le contraire. Donc la présence humaine d'un soignant peut être extrêmement puissante dans le soin. Et je pense qu'il y a des soignants qui ont compris ça intuitivement et qui arrivent à avoir un impact sur les patients rien que par leur présence. Et effectivement, il faut l'étudier parce qu'il faut l'enseigner.
Ce qui est troublant, c'est que ça puisse fonctionner par téléphone. Et alors, à propos des magnétiseurs, Richard Monvoisin, là, vous avez mené des expériences.
Oui, on a même un protocole un peu standard là-dessus. Quand un magnétiseur ou une magnétiseuse est d'accord pour se faire tester, ce qu'on propose, c'est de faire choisir une personne qui émet, selon elle, un signal très très fort. Et ensuite, on monte un protocole, qu'on appelle un protocole en double aveugle, où le magnétiseur ou la magnétiseuse ne sait pas si derrière un haut vent est présente la personne ou pas, la personne qui émet le signal fort. Et on va essayer de voir si le magnétiseur arrive avec ses mains, avec un haut vent qui ne bloque pas le signal, puisqu'on fait des pré-tests au préalable, si le magnétiseur arrive à déceler ou non s'il y a une personne ou pas, sur une série longue. On fait ça 100 fois et on regarde si les résultats dépassent les scores du hasard. À chaque fois qu'on a fait ça, malheureusement, ça n'a pas donné de résultat. Ce qui nous fait conclure que pour l'instant, il n'y a pas de démonstration formelle d'une capacité à détecter un fluide.
Et le score du hasard, quel est-il?
Oh, généralement, bah, disons que si on fait une série de 100 essais avec une chance sur 2 à chaque fois, si vous faites entre 37 et 63... On peut dire que vous avez répondu par hasard. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment si vous dépassez 63, dans ce cas-là, vous avez une capacité extraordinaire à trouver les résultats. Ou si vous avez moins de 37, mais dans ce cas-là, vous avez une capacité extraordinaire à vous planter tout le temps, quoi. Ça nous intéresse, nous, pas le magnétiseur, évidemment, mais nous, ça nous intéresse quand même. Et pour l'instant, on n'a pas de cas comme ça.
Et l'explication scientifique?
Sur le soin, je pense qu'il y a les effets contextuels liés à l'autorité, au charisme de la personne qui vont jouer. Je pense que tout ce qu'on voit en soins de magnétiseurs, on les prête bien souvent à des guérisons qu'on considère comme évoluant spontanément, ou à ce qu'on appelle des régressions à la moyenne. C'est-à-dire quand on a très mal pour une maladie chronique, je sais pas, imaginez par exemple vous avez mal au dos, généralement les gens consultent au moment du pic de douleur, et puis le mieux-être vient après, mais c'est pas du fait du thérapeute qu'on a rencontré, mais bien de la régression vers la position moyenne entre le pic de douleur et un état sans douleur, quoi.
Bruno, mon voisin, vous avez testé des magnétiseurs et vous m'avez dit, quand on a préparé, qu'il n'imagine pas échouer au test.
Ben non. Non, tous ceux qu'on a rencontrés, ils sont archi confiants dans leur pratique. Et ça rend les choses d'ailleurs d'autant plus compliquées sur le plan affectif, parce que la personne est sympa, la personne elle donne de son temps, elle veut tester son don. On réalise le test, on essaie de la préparer à l'idée de bah, si ça marche pas, qu'est-ce qu'on en conclut? La personne elle vous répond immanquablement non, mais ça marchera, c'est sûr. Puis quand on dépouille les résultats et que les résultats sont absents, généralement la personne elle se décompose. Elle passe par une phase où elle se décompose complètement, puis nous on s'en veut horriblement d'avoir monté un test là-dessus.
Eh oui.
Et en même temps, on est motivé par le fait que je vais vous tourner ça d'une certaine façon, je vais vous dire il y a tellement de magnétiseurs et de magnétiseuses sur le marché, qu'autant choisir un bon. Or comment on reconnaît un bon d'un mauvais magnétiseur? Et bien souvent, les réponses qu'on nous donne sont un peu de l'ordre du sketch des inconnus, quoi. C'est un bon magnétiseur, ça se voit, un mauvais magnétiseur, ça se voit pas. Bah, nous, l'idée, c'est de pouvoir fournir une information sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique de magnétisme. Dans ce cas, il nous faut bien des faits. Donc, on est content de pouvoir monter des protocoles comme ça. Mais quand la personne, elle se retrouve face à des résultats hasardeux, elle est complètement décontenancée. Et généralement, ce qui se passe ensuite, quelques temps plus tard, la personne va trouver une raison pour justifier son échec. Soit dans un aspect du protocole, qui a pourtant été construit avec elle. soit en invoquant des aspects extérieurs, la température extérieure. Une fois, on m'a dit « Ah, mais je sais pourquoi j'ai échoué, c'est parce qu'il y a eu une inversion du champ magnétique terrestre au même moment que le test. » Et donc, on propose à la personne de revenir un jour où il n'y a pas d'inversion du champ magnétique terrestre, mais la personne, elle veut pas pousser plus loin, parce que ça lui... En fait, elle, le coût est énorme d'un échec. C'est-à-dire que ça change sa pratique... Si elle est honnête avec elle-même, elle doit changer sa pratique. Or c'est hyper difficile, quoi. Pour notre position à nous, en tant que scientifique, elle est beaucoup plus simple. Parce que soit le résultat soit bon ou mauvais, dans tous les cas, on est satisfait, on fait avancer la connaissance et on n'a pas de lien d'intérêt avec le résultat, si vous voulez.
Fanny Charras, est-ce qu'une sociologue peut dire qu'il y a des bons et des mauvais magnétiseurs?
Alors, c'est pas une question que je poserai en tant que sociologue. C'est plutôt, ma question serait plutôt, comment certains acteurs définissent un bon ou un mauvais magnétiseur. Donc j'ai observé dans ma thèse comment les magnétiseurs définissent eux-mêmes un bon ou un mauvais magnétiseur. Alors... Donc il y a des conflits entre les magnétiseurs pour définir ce qui est bon et mauvais. Et pareil, j'ai aussi enquêté sur les médecins et sur des médecins plutôt favorables au magnétisme et des médecins défavorables au magnétisme. C'est comme ça que j'ai rencontré Bruno Falissard. Et j'observe comment eux-mêmes essayent de définir ce qui est un bon ou un mauvais magnétiseur. Alors, évidemment, ces définitions vont varier puisque les acteurs changent au fil du temps. Mais aujourd'hui, les magnétiseurs, la plupart de ceux que j'ai rencontrés, définissent un bon magnétiseur comme quelqu'un qui va pas outrepasser ses compétences. C'est-à-dire que c'est celui qui va ou celle qui va respecter un code éthique proche de celui médical sur certains aspects pour ne pas être charlatan.
Donc l'un ne va pas remplacer le médecin.
Voilà,
par
c'est
exemple.
Ça. Il va pas dans le cas de maladies graves parce que sur certains aspects, par exemple, il va remplacer certains dermatologues pour des verrues, mais il va pas proposer de guérir un cancer et de remplacer un radiothérapeute, par exemple.
Difficile de les évaluer.
C'est difficile et en fait le premier test du magnétisme remonte à Mesmer, à la veille de la Révolution française. Donc Franz Anton Mesmer, c'était un médecin autrichien qui arrivait en France en 1777, il me semble, fin des années 70, et qui en fait avait un grand succès avec le magnétisme animal, une pratique qu'il avait inventée, qui consistait à mettre les personnes les unes à côté des autres autour d'un baquet, donc c'était une caisse circulaire en chaîne, et elles étaient reliées entre elles, les personnes, par des cordes, et elles avaient une sorte d'équerre en fer. Et donc, par la transmission d'un fluide magnétique, il disait guérir ces personnes qui étaient prises de convulsions, etc. Et en fait, à la veille de la Révolution française, Louis XVI a voulu, du fait que des médecins disaient que c'était du charlatanisme déjà à l'époque, a réuni deux commissions issues de l'Académie royale des sciences et l'Académie de médecine. Dans les commissaires, il y a des personnes fameuses comme Guillotin, Lavoisier, Jussieu, Bailly, Benjamin Franklin. Et ils ont essayé d'examiner le magnétisme animal. Alors le but à la base, c'était de savoir, un peu comme aujourd'hui, et c'est là que ça, l'histoire résonne étrangement, de voir si on pouvait repérer le fluide magnétique pour l'objectiver en quelque sorte. Voyant qu'ils n'y parvenaient pas, ils se sont dit, est-ce que c'est pas l'imagination, tout simplement? Et donc, ils ont défini finalement, à la fin de cette évaluation, que le fluide magnétique n'était que de l'imagination, et donc pour eux, impropre d'un point de vue médical et sans intérêt. Donc ils disaient, on va essayer quelque chose, on va faire croire à quelqu'un qu'elle est magnétisée et on verra la réaction. Et en fait, la plupart du temps, la personne se croyant magnétisée sans l'être avait des réactions semblables aux personnes se sachant magnétisée l'étant réellement, etc. Voilà.
Donc on se posait déjà ces questions il y a plus de 2 siècles, Bruno Falissard, les mêmes questions que vous vous posez aujourd'hui?
Absolument.
Exactement les mêmes, et on n'a pas de meilleure réponse aujourd'hui.
Un petit peu quand même. On a un petit peu de meilleures réponses, mais la vraie question, c'est pourquoi on n'a pas plus de réponses? Parce qu'on met pas d'argent pour faire de la recherche sur ces sujets, parce qu'ils ont l'air fantaisistes. On met de l'argent pour évaluer des médicaments, et donc on a des médicaments par-dessus la tête, mais pour évaluer ce qui se passe avec les soignants en chair et en os, on n'a pas d'argent pour évaluer, et du coup, on le fait pas très bien. Et du coup, nos patients vont voir des magnétiseurs qui parfois font du bon boulot, parfois s'en prennent à votre portefeuille, ou... vous écarte du système de soins habituel.
Mais ce que j'aime bien avec vous, c'est que j'ai l'impression que votre esprit est très ouvert.
Mais en fait, quand on est médecin, on est pragmatique, vous savez. On veut que nos patients aillent mieux. Et on se rend bien compte que par moment, on n'y arrive pas complètement. Et donc, il faut bien prendre partout où ça peut marcher.
Find it in your heart to sing. If my mother cries in sorrow, will you help her with the many things that she needs for?
borrowed everybody's love and they gave for free. And I wish that I could give it back to them. So if I die tomorrow, will you give them all the love they lend?
On écoutait Jack White, If I Die Tomorrow.
Les Saventuriers sur France Inter.
Et je vous propose maintenant le témoignage d'un homme dont l'épouse avait fait appel à un coupeur de feu pour un zona.
On a pris rendez-vous. J'étais un soir, au moment où il traisait les vaches. Puis il parlait avec ma femme. Alors, ah bon, votre père est béarnais, bon, ah, votre mère est née dans le Cantal. Bon, parler de choses et d'autres, tout ça. Puis d'un seul coup, il lui a dit, ça y est, vous pouvez partir, c'est fini. Le lendemain, je prends la route pour Paris. Dans la journée, le professeur Laverdan fait sa visite. Puis le scule, il dit, mais oh, oh, madame, vous avez été à Lourdes? Il n'y a plus rien, c'est fait. Allez, dites-moi la vérité. Alors elle lui explique un peu ce qu'elle avait fait. Ah, il dit, je sais, je connais. Moi, je n'ai pas le droit, en tant que médecin, de m'en servir. Je n'ai pas le droit pour les patients. Mais pour moi, ou pour de la famille, ou des amis proches, je peux m'en faire servir. Alors vous serez bien gentil de dire à Roger qu'il me donne son numéro de téléphone. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et il a dit, maintenant, je vous signe votre sortie d'hôpital, ce n'est plus la peine de rester.
Et voilà, Bruno Falissard, est-ce que vous, vous feriez appel à un magnétiseur?
Alors, pour moi, personnellement, pourquoi pas? Je ne suis pas sûr, parce que ça me remettrait en question quand même au fond de moi. Donc, peut-être pas, mais pour des proches, oui.
Et vous, Fanny Charaz, vous m'avez dit, ça m'a rendu parfois perplexe.
Bah, ça rend perplexe parce que, et d'ailleurs, comme les commissaires que je citais tout à l'heure, eux-mêmes étaient perplexes et ils racontaient qu'ils sentaient les convulsions, etc. Et ils ont essayé de décider, de distinguer ce qui relève juste de l'esprit et du corps, comme si c'était simple de pouvoir distinguer corps et esprit. Et en fait, la séparation entre corps et esprit, la séparation entre savoir et croyance relève d'une histoire de l'Occident. Donc c'est ça qui m'interroge. Et que lorsque je veux dire ça relève que de ça ou que de ça, je m'engage dans le conflit qu'en tant que sociologue, je veux observer.
Mais oui.
Et mon corps, en fait, s'engage dans ce conflit. Et ça m'est arrivé d'avoir, en effet, même de pratiquer, parce que pour pouvoir observer la pratique, par moment, je suis allée à des formations de magnétisme. Et donc, il m'est arrivé, dans ces circonstances-là, de devoir mettre les mains autour à côté, etc., de palper l'aura d'une personne que je ne connaissais pas. Et à ma grande surprise, j'ai senti un picotement dans la main, et comme je savais pas quoi dire, je dis à la femme que j'étais censée magnétiser, mais je savais pas si je magnétisais vraiment, je lui dis, je sens un picotement. Et elle me dit, ah, mais c'est normal, c'est mon épaule, j'ai mal depuis ce matin. Et j'avais la main, en effet, au niveau de son épaule droite. Et donc, elle m'a un peu guidée en me disant, fais ceci, fais cela, etc. Et lors du tour de parole final, elle a déclaré à tout le monde que grâce à moi, elle n'avait plus mal à l'épaule. Alors évidemment, lorsqu'on vit ce genre de choses, on peut, en tant qu'occidental qui est né dans un monde dans lequel on oppose le corps et l'esprit, le savoir et la croyance, on essaye de rationaliser. Et d'ailleurs, on parle de pratiques irrationnelles parce qu'il y a cette opposition en Occident entre ce qui n'a pas été démontré et ce qui est démontré. Opposition qui n'existe pas partout. Pour devenir magnétiseuse, il aurait fallu que j'apprenne à vaincre ce doute comme le font les magnétiseurs. Moi, j'ai pu essayer d'expliquer, de comprendre ce qui conduit une personne à vaincre ce doute. Donc j'ai pris un recul qui est celui du sociologue ou de la sociologue, voilà, qui me permet...
Autre question, est-ce que vous avez assisté à des guérisons spectaculaires ?
Non, j'ai eu des témoignages en fait vraiment spectaculaires, dont un qui m'a pas mal bouleversée d'une oncologue, et cette médecin m'a expliqué qu'elle recommandait des magnétiseurs à ses patients et patientes. Une fois, en fait, une patiente qui avait un cancer de la bouche avait des pansements, elle avait des énormes aftes. Et ces aftes, normalement, de son expérience de médecin, ne disparaissent pas facilement. Et en fait, quelques jours plus tard, la patiente est revenue sans aftes. Et là, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et la patiente lui a dit, c'est un magnétiseur. Alors peut-être que c'est un cas exceptionnel de patient qui peut dont la guérison est plus rapide que pour d'autres, etc. Mais en tout cas, ça frappe les médecins. En fait, c'est l'expérience, Bruno Falissard en parlera mieux que moi, c'est l'expérience clinique, c'est l'efficacité clinique qui peut expliquer à ce niveau-là ce type de guérison. C'est aussi ça m'est arrivé de voir des patients ou des patientes qui avaient, face à un magnétiseur, des réactions extraordinaires, ou un éclat de rire, et qui eux-mêmes s'en étonnaient. J'étais tellement, tellement déprimée, et sur la table de soins, je me suis mise à rire, etc. Et qui me raconte qu'ils sont allés voir un autre magnétiseur que je connaissais également, qui a une très bonne réputation et qui ne leur a rien fait. Mm-hmm. C'est vraiment la rencontre entre deux personnes. Et en fait, certains magnétiseurs vont avoir un effet sur des patients. Alors, c'est un effet, pas nécessairement une efficacité thérapeutique, mais c'est un effet, c'est-à-dire produire un rire, produire quelque chose sans savoir d'où ça vient. Et le même magnétiseur sur d'autres patients auront zéro effet. Un peu comme un psychanalyste ou une psychanalyste peut avoir... on peut avoir un bon feeling avec un psychanalyste, alors que avec un autre, ça marche pas du tout. Et ce qui veut pas dire que c'est un charlatan. Ça veut simplement dire que dans l'interaction, ça ne fonctionne pas.
Richard, mon voisin, même question. Est-ce que vous feriez appel à un magnétiseur?
Pour moi, oui. La réponse serait oui, si je trouve un jour un magnétiseur ou une magnétiseuse qui a fait une démonstration de ses capacités. Sans aucun problème dans ce cas-là. Sinon, non, parce que je connais pas de cas que revendiquent les magnétiseurs qui soient pas explicables parce qu'on connaît déjà en science. Donc, moi, je vous avoue que mon combat, il serait plutôt sur pourquoi a-t-on tellement envie de se tourner vers des soins de ce genre? Et des bribes de réponses ont déjà été données tout à l'heure. Je pense que c'est pas tant la médecine scientifique en tant que telle qui pose problème, mais plutôt que l'agencement des soins. Il y a tellement peu de temps donné aux praticiens et aux praticiennes pour prendre soin de leurs patients, qu'il est logique que les patients ensuite aillent chercher ailleurs une prise en charge.
C'est ce qu'expliquait Fanny Charras tout à l'heure.
Oui. Ben oui, c'est ça. Hippocrate, il le dit dans ses textes, il y a 2500 ans, il dit qu'il faut faire une médecine de l'âme et du corps. Et ben la médecine dite de l'âme, elle a plus sa place à l'hôpital. Mais c'est pas parce que les gens veulent pas l'utiliser, c'est parce qu'il n'y a plus de moyens pour ça. En fait, le problème, il est réellement politique, à mon avis.
Bruno Félissard, vous êtes d'accord?
Oui, bien sûr. Mais par exemple, la Haute Autorité de Santé ne va jamais mettre comme recommandation qu'il faut bien parler aux patients. Vous voyez? Alors, on va vous expliquer comment remplir des questionnaires, etc., mais jamais comment il faut parler. Mais alors, après, tout le monde est fautif. Des doyens de faculté de médecine qui ont comme objectif numéro un de faire que leurs étudiants parlent bien à leurs patients, il n'y en a pas des masses. Il y en a, hein. Il n'y en a pas des masses. Donc, tout le monde est un peu coupable.
Moi, vous voyez, je sais que je donne, que j'applique mes mains sur le mal pour guérir.
Et vous donnez quoi?
Je donne du fluide, je donne ce qui est en moi, de mon don.
D'où vient ce don?
Ce don, c'est de naissance.
Et vous sentez quelque chose s'échapper de vos doigts?
Ah oui, maintenant, surtout quand je n'exerçais pas, à ce moment-là, je sentais quelque chose s'échapper de mes doigts. Maintenant, je donne beaucoup, n'est-ce pas? Je soigne beaucoup, alors je sens beaucoup moins. Ça s'échappe beaucoup moins de moi, parce que je le donne au fur et à mesure, à mes malades.
Un extrait de La France des médecines sauvages, diffusé sur FR3, le 9 octobre 1977. Bruno Félissard, vous préparez donc un rapport sur la place de l'irrationnel en médecine. Comment est-ce que vous travaillez? Vous auditionnez des personnalités, des soignants, des patients?
C'est toujours de la même façon que l'on procède à l'Académie de médecine. Effectivement, on auditionne des personnes d'horizons très différents, des patients, des soignants conventionnels, des soignants non conventionnels, des collègues âgés, puisqu'à la faculté de médecine, nous avons beaucoup de collègues très expérimentés. Et puis, nous ne sommes plus pris dans les challenges, un petit peu les enjeux de pouvoir du monde universitaire. Donc, on peut prendre un peu de recul par rapport à tout ça et avoir des positions un petit peu plus sages.
Est-ce que ça veut dire que ces médecines non conventionnelles pourraient avoir plus de place à l'hôpital? En tout cas, que c'est ouvert.
Alors, d'abord, c'est ouvert. Après, il y a le problème de l'argent qui se pose. Hein. La santé, c'est 12 points du PIB de la France. Si on commence à tout rembourser, à la fin, on n'aura plus d'argent pour payer les infirmières, les médecins et pour payer les médicaments qui coûtent cher. Donc, il faut que l'on soit rationnel sur quels sont les soins qui sont utiles aux patients. Et c'est pas forcément des soins technologiques, c'est aussi des soins où ce sont des humains qui parlent. Et là, les soins non conventionnels peuvent nous apprendre des choses sur le fait que quand on parle bien, on peut faire du bien. Mais ça doit être évalué rationnellement, même si le mot est un petit peu compliqué, mais ça doit être évalué pour qu'on sache où on va.
Moi, j'ai envie de terminer avec vous, Fanny Charras. Vous m'avez dit beaucoup d'histoires qui permettent de dire « quand même ».
Je sais bien, mais quand même.
Oui,
oui, en effet, Ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui continue de m'intéresser en tant que sociologue, et ça me permet de décaler toujours le regard en fait par rapport aux scientifiques, on va dire, parce que j'essaye d'inclure la science dans mon objet d'étude, mais aussi le magnétisme, et de comprendre comment on fait une limite entre savoir et croyance. Une de ces histoires, c'est une femme qui était ingénieure, et qui était, parce qu'elle s'est convertie au magnétisme, à la médiumnité, donc ça va un peu plus loin, et qui, en fait, un jour, elle était avec son mari, en train de se promener, le jour de son anniversaire, pour ses 40 ans, et elle me raconte qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui se pend devant eux. Et en fait, avec son mari, ils dépendent de la personne, ils appellent le SAMU, et puis elle se rend compte que c'est lors de sa naissance et qu'elle est née avec le cordon ombilical autour du cou. Et elle me dit qu'elle n'avait pas du tout d'appétence à la base pour le magnétisme, etc. Et à partir de ce moment, cet événement, elle a commencé à avoir des esprits. Au début, elle a surtout pensé qu'elle était folle, donc elle a failli se retrouver en hôpital psychiatrique. Son mari a dit, ah oui, un choc émotionnel, maintenant t'as des hallucinations. Elle-même était persuadée d'avoir des hallucinations. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'est voir comment cette femme allait passer de potentiel schizophrène ou avoir un diagnostic semblable, on va dire, à médium revendiqué qui a ouvert son cabinet, qui a rompu avec son mari parce qu'évidemment il l'a pas suivi dans ce changement, cette bifurcation de carrière. Et c'est là que quand on l'écoute et la façon dont elle le raconte, oui, elle a vu des esprits entre guillemets. Et en France, on n'a pas cette façon de nommer les esprits. On va dire que c'est des hallucinations.
Mais quel rapport avec l'homme pendu?
Selon elle, c'est que ça lui a rappelé qu'elle était née avec le cordon ombilical autour du cou et que cet homme s'est pendu, donc a voulu se pendre, donc c'est le même signe que ce qui lui a... Voilà, ça a fait un choc émotionnel. Alors quel est le rapport? C'est par association d'idées, oui. Peut-être le signe qu'il faut bifurquer parce que une renaissance aussi, sans doute. Une renaissance, elle est devenue, à partir de cet événement, médium et magnétiseuse au lieu d'être ingénieure.
Eh bien, merci beaucoup, Fanny Charras, sociologue. Merci, Bruno Falissard, médecin, membre de l'Académie de médecine. Et merci, Richard Monvoisin, en duplex de Grenoble. Merci beaucoup.
De rien.
Merci. Merci.
Oui, merci à Bruno Falissard, Fanny Charras et Richard Monvoisin pour leurs propos directs et sans phare. Stéphanie Texier a réalisé cette émission, attachée de production Pierre de Certaines. Et c'est Joe Baca qui signe la programmation musicale à la technique, Florian Dorimini. Cette émission, comme toutes celles de cette série estivale, est bien sûr disponible en podcast. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux Yétis, aux monstres du Loch Ness et aux serpents de mer. Vous découvrirez que la cryptozoologie est une véritable science. France Inter.